Alors bonsoir à vous tous pour ce 61e mardi d'éthique publique, le dernier de cette année académique avant l'interruption de l'été. C'est un mardi tout à fait exceptionnel puisqu'il se déroule en partenariat non seulement avec la revue Études, mais aussi avec les semaines sociales de France qui nous suivent en direct dans les antennes régionales de Bordeaux, Lille, Montpellier, Moulins, Rennes, Rouen, Strasbourg et Vannes, ainsi que à distance les habitués de nos soirées mensuelles qui nous écoutent à Grenoble, Chaville, Bordeaux encore, Lyon, Aix-en-Provence, Saint-Étienne, Perpignan, Rouen, Toulouse, Poitiers et Athènes. Je pense que la technique suivra. La raison de ce partenariat est que la prochaine session des semaines sociales début octobre s'intéressera aux religions et aux cultures comme ressources pour imaginer le monde. Et donc notre soirée s'inscrit déjà dans la dynamique de cette réflexion. Et avant d'introduire à la thématique d'aujourd'hui, je voudrais laisser la parole pour quelques minutes à Monsieur Jérôme Vignon, qui est président des Semaines sociales de France et qui va nous situer le projet de la session d'octobre.
Je voudrais remercier très chaleureusement.
Et cette fois-ci, ça marche. Et je suis vraiment très touché que d'avoir ce tout petit temps, alors que vous brûlez certainement d'écouter nos orateurs pour ce soir. Et il y a en effet une très grande proximité entre le thème qui va être abordé par nos orateurs, qu'est l'apport du christianisme dans l'espace public, et celui des prochaines Semaines sociales de France, les 2, 3, 4 octobre à l'UNESCO à Paris, qui parle pas seulement du christianisme, mais religion et culture au pluriel, ressources pour imaginer le monde. Ressources, vous le verrez dans l'apport de ce petit feuillet pour cette soirée, est un terme qui nous est en commun. Et si les semaines sociales, aussi bien à Paris que dans les antennes qui nous écoutent par vidéo retransmises, sont si intéressés par l'échange de ce soir, c'est pour une petite raison que je voudrais maintenant très brièvement expliquer. Et il y a 7-8 ans, en 2008, à Lyon exactement, nous tenions une session sur le thème « Église et religion, espoir ou menace pour la société ?» Point d'interrogation. Et nous avions répondu à l'époque plutôt par la positive. Nous ressentions que il y avait un moment plutôt favorable dans les sociétés modernes, en France en particulier, pour que ce que les religions avaient à dire puisse être entendu, pourvu qu'elles s'expriment avec le langage de la raison publique, c'est-à-dire de manière audible, et qu'il y ait suffisamment de bienveillance dans l'espace public pour les entendre. Aujourd'hui, je dois dire que beaucoup de chrétiens, en particulier aux semaines sociales, sont un peu déçus. La façon dont ils ont vécu les grands événements en France autour de la loi Taubira, où les uns pensaient qu'il fallait parler fort et ils n'ont pas été entendus, et d'autres pensaient que justement en parlant fort, on perturbait le débat public, il reste de cela un certain malaise sur la possibilité même d'exprimer dans l'espace public un point de vue chrétien. Plus récemment encore, tous les chrétiens n'étaient pas nécessairement heureux d'être Charlie. Il pressentait quelque part que la dérision vis-à-vis de la religion, même si ce n'était pas la leur, était quelque chose qui les atteignait et signifiait que la religion elle-même ne signifiait plus rien dans l'espace public. Pouvons-nous surmonter cette déception? Le terme de ressources, au fond, je le garde, pour dire ce que nous attendons ce soir. Pouvons-nous être fiers comme chrétiens? Pouvons-nous porter avec bonheur ce que non seulement nous avons à dire, mais que nous vivons. Pouvons-nous dépasser notre crainte et autour de quel thème, de quelle problématique est celle de l'espérance, celle de l'unité, celle de la justice, que la ressource de la foi chrétienne et aussi peut-être celle des autres religions peut aujourd'hui être indispensable et finalement entendue. Je rends la parole.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Vignon. Alors, avant de présenter le thème de la soirée et nos intervenants, comme c'est la dernière réunion, rencontre de cette année, permettez-moi de rappeler pendant quelques instants, quelques brefs instants, le parcours de l'année écoulée. Nous avons donc voulu réfléchir chaque mois à un sujet important de notre actualité, actualité proche ou plus lointaine, pour en approfondir les enjeux, nous donner des repères éthiques et au fond pour ouvrir nos regards et nos consciences sur des questions qui ne peuvent pas nous laisser indifférents. Ainsi, nous sommes-nous arrêtés sur les sujets suivants. Les évolutions actuelles du modèle familial, quelles questions pour la société en octobre. Penser un monde sans frontières, quelles conséquences sur l'immigration en novembre. Où va l'économie française en décembre. L'épidémie Ebola début janvier, peur, prévention et traitement, solidarité internationale, comment répondre. En février, bien sûr, c'est l'actualité des semaines précédentes qui bousculait notre programme pour réfléchir sur l'islam en France, puis en mars sur le Proche-Orient dans la tourmente. En avril, la planète pourra-t-elle satisfaire tous nos besoins, nourriture, énergie? Et le mois dernier, la Chine dans les relations internationales. D'autres sujets graves ne manqueront pas de se présenter à nous l'année prochaine. D'ailleurs, les différents sujets évoqués, on ne peut dire évidemment qu'ils soient résolus. L'année prochaine, notamment autour des enjeux du climat avec la conférence de Paris. Le sujet de ce soir porte donc sur l'apport du christianisme dans l'espace public. À l'heure où les débats sur la laïcité se multiplient, à l'heure où ils attisent des oppositions, le christianisme est interrogé de toutes parts. Doit-il se replier dans la sphère privée, voire se constituer en contre-culture d'opposition plus ou moins frontale, ou bien a-t-il des ressources à faire valoir dans l'espace public, et lesquelles? N'a-t-il pas quelque chose à dire qui puisse aider la société à progresser dans le sens de la justice, du respect mutuel, voire de la fraternité? En somme, comment la foi chrétienne peut-elle éclairer notre quotidien? Et comment va-t-elle stimuler notre capacité à imaginer le monde et son avenir? Tout cela, bien sûr, et ce n'est peut-être pas toujours le plus simple, en s'inscrivant avec justesse dans le débat démocratique. Pour nous aider ce soir, nous sommes heureux d'accueillir Monsieur le pasteur François Claveroli, Monsieur Jean Pic et le père Alain Thomassé, que je vais présenter dans l'ordre de leur intervention. Jean Pic, vous êtes juriste de formation, magistrat honoraire à la Cour des comptes. Vous avez d'ailleurs été président de chambre. Vous êtes également professeur à Sciences Po. On peut dire que votre réflexion est marquée par la philosophie politique, mais aussi par une formation en théologie, toutes disciplines qui ne sont pas sans intérêt pour aborder le statut de la religion ou des religions dans la société. Et c'est ainsi que vous avez publié l'année dernière chez Odile Jacob un livre intitulé « La liberté de religion dans la République, l'esprit de laïcité ». Monsieur le pasteur Claveroli, depuis 2013, je crois, vous êtes président de la Fédération protestante de France. Il me semble que votre itinéraire est tout spécialement marqué par le souci du dialogue, que ce soit à l'intérieur de la famille protestante, dans l'œcuménisme et dans les relations interreligieuses aussi. Vous avez d'ailleurs été, il y a quelques années, président de la commission des relations de la Fédération protestante de France avec le judaïsme. Et parmi vos publications, j'ai spécialement noté celle-ci, qui n'est pas la dernière, puisqu'elle remonte à 2011, mais dont la thématique, je crois, n'est pas étrangère à ce dont nous pouvons débattre ce soir. Parole d'alliance, dialogue entre un pasteur et un rabbin sur la société française. Merci beaucoup d'être ici avec nous ce soir. Nous entendrons enfin le père Alain Thomassé, professeur de théologie morale dans la faculté de théologie du Centre Sèvres et depuis cette année président de l'ATHEM, c'est-à-dire l'Association des théologiens pour l'étude de la morale. Cher Alain, tu sors d'ailleurs de toute une journée d'études de cette association et je te remercie d'autant plus d'avoir allongé ta journée de travail, de réflexion, pour une bonne cause, il est vrai. Tu as publié en 2011 un gros ouvrage intitulé « Interpréter et agir, jalons pour une éthique chrétienne » où tu t'interroges bien sûr sur la dimension sociale de l'agir chrétien et c'est pourquoi j'ai un peu insisté pour que tu sois avec nous ce soir. Nous allons entendre maintenant chacun de nos intervenants pour une durée de 15 à 20 minutes, après quoi eh bien, nous pourrons recueillir vos questions et lancer le débat comme il est d'usage. Jean Pic, vous avez la parole.
Merci beaucoup Henri. Je m'exprime ce soir, non pas en magistrat des comptes, ceci offre peu de prise à notre sujet, mais je veux dire tout de suite que je ne changerai pas un iota de ce que je vais dire, même dans le statut qui est le mien. Simplement, je parle en chrétien devant un public qui, je pense, est largement chrétien, et si je devais parler devant un public plus large, j'atténuerai cette dimension de mon propos. Et je m'exprime, comme l'a rappelé Henri, à partir de la réflexion sur l'État qui a été la mienne et de l'enseignement sur l'histoire de l'État en Europe qui me conduit à Sciences Po à faire découvrir à mes étudiants qu'avant l'État, il y avait le Saint-Siège et que la papauté romaine a été un prototype de l'État dans l'espace européen. Au cœur de la ville d'Évry, on aperçoit un cylindre de briques rouges surplombé d'une couronne de 24 tilleuls argentés. S'il n'y avait le campanile et sa croix discrète, la cathédrale d'Évry, qui jouxte la place des droits de l'homme, serait vue de l'extérieur, dénuée de toute symbolique chrétienne. Il faut y entrer pour y découvrir dans les alcôves des vitraux, des apôtres. Son architecte, le Suisse Mario Botta, explique que sa vocation est de remplir un vide de la mémoire et de renvoyer à des valeurs, je cite, « dont nous ressentons profondément l'appel ». L'ancien député maire, socialiste, disait au moment de lancement du chantier qu'il faut dans les cités des lieux qui élèvent. Ce projet, qui est à la fois un projet cultuel, mais aussi un projet culturel, puisqu'un musée d'art sacré a permis à l'État de contourner l'interdiction de financer sur fonds publics des lieux de culte, permettait de recréer ce qu'un urbaniste d'État a qualifié ainsi, donner une âme à une ville qui n'en avait pas. Donner une âme, des lieux qui élèvent, des valeurs qui nous appellent, remplir un vide de la mémoire, autant d'expressions éclairantes. De fait, cette cathédrale qui n'a de cathédrale que le nom, il y a juste près de l'autel à gauche la piscine baptismale qui rappelle la tradition médiévale de la mater ecclesia, est au-delà de sa fonction religieuse un lieu symbolique, un espace pour l'esprit ouvert à tous, qui peut, dit encore son architecte, aider les hommes à affronter la vie et la lutte quotidienne. Signe d'une laïcité apaisée, elle réunit ce que la laïcité de combat d'hier n'est jamais parvenue à séparer. Et elle est une réponse à la question qui nous est demandée de traiter ce soir. Je voudrais en effet, au nom même de ce que j'appelle l'esprit de laïcité, soutenir devant vous, à l'opposé d'une vision très fortement ancrée dans notre pays, qui entend expulser les convictions religieuses de l'espace public, qu'elles y ont toute leur place. L'apport du christianisme à l'espace public me paraît non seulement légitime, il est également heureux pour la vie de notre pays. Un apport légitime. Pour beaucoup, la laïcité est au pire un instrument de combat contre les religions. Il est vrai que ceci s'explique par l'histoire de la guerre des deux Frances entre l'Église et la République, et au mieux une neutralisation des religions. Un ancien ministre de l'Éducation nationale, dans un ouvrage au titre évocateur, je cite, « Une religion pour la République », sous-titré « La foi laïque », ne faisait-il pas de la laïcité, je cite encore, « la religion de toutes les religions, de toutes les confessions, la religion universelle ». La laïcité, religion de la République. Une telle conception n'est pas celle de notre loi fondamentale. L'article 1er de la Constitution affirme en effet que la République est laïque, mais il dit aussi, je cite, qu'elle respecte toutes les croyances. Si elle les respecte, ce n'est pas pour qu'elle soit priée de se taire ou de se fondre dans une religion laïque qui les réduirait. Entendons-nous bien, il ne s'agit pas de manifester bruyamment notre appartenance, il s'agit de pouvoir attester par une parole et un agir des convictions qui, en principe, orientent tous les choix de notre existence. Personne ne fera renoncer aux hommes et aux femmes à ce qu'ils ou elles croient sous prétexte que la République est laïque. Cette vision est également contraire à la loi de 1905, loi profondément libérale, qui en même temps qu'elle instaurait l'heureuse séparation des Églises et de l'État, impose à ce dernier d'assurer deux libertés fondamentales, la liberté de conscience et le libre exercice des cultes. Son principal rédacteur, Aristide Briand, déclarait devant la Chambre des députés en mars 1905, je cite, « que la République ne saurait opprimer les consciences ou gêner dans ses formes multiples l'expression extérieure du sentiment religieux. » Parfois, vous pouvez le voir dans des revues très laïques, on fait l'éloge de la liberté de conscience comme pour refuser la liberté de religion, ignorant en cela une dynamique historique des libertés qui fait que la première des libertés publiques conquises dans l'espace européen grâce à Guillaume d'Orange a été, avec la déclaration d'Utrecht au XVIe siècle, la liberté de religion. Et si la laïcité devait impliquer que nous confinions dans les murs de nos domiciles l'expression de nos convictions profondes, nous ne serions guère mieux lotis, monsieur le pasteur, que les Huguenots sous les Bourbons. Il est vrai que l'expression laïque renvoie chez nous à une situation paradoxale. Ce que je viens de dire, un cadre juridique qui permet le pluralisme, l'expression plurielle des traditions, mais en même temps, une tradition très puissante, laïciste, qui considère qu'elle doit obturer à elle seule l'espace public. Le fait que cette tradition demeure forte, souvenons-nous du Comité national d'action laïque, ne suffit pas pourtant à en faire la loi de la République. La laïcité n'est pas une idéologie, elle n'est même pas, je crois, une valeur, elle est un cadre juridique protecteur des libertés, une pratique de la vie commune. C'est d'autant plus vrai que l'état de droit a évolué et que, à la liberté de conscience, s'est ajoutée avec la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948 et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en 1950, la liberté de religion, droit civil reconnu à tout homme, je cite l'article 9 de la Convention, de choisir ou de changer de religion, d'exprimer sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. Et depuis que la France a ratifié en 1981 le recours individuel qui permet à tout citoyen, ultimement, de saisir la Cour de Strasbourg, elle est en quelque sorte placée sous la surveillance du juge. Or, vous l'avez sans doute observé, la liberté de religion est un terme totalement absent du débat public, banni par les hommes, du vocabulaire des hommes politiques. Et il a fallu les lois d'interdiction de 2004 sur les signes dits ostentatoires, ou en 2011 sur le port de la burqa, pour que le législateur s'avise qu'il était tenu par les pactes qu'il avait ratifiés et qu'il fallait donc prendre des précautions pour que ces lois ne puissent pas donner lieu à des invalidations par la Cour. On n'a pas suffisamment relevé, le 1er juillet dernier, la décision de la Cour européenne des droits de l'homme qui a validé la loi sur la burqa. Elle l'a fait au nom du principe que dans une société démocratique, pour vivre ensemble, il faut se voir, mais elle a assorti cette décision de toute une série de commentaires rappelant que le principe de la Convention était la tolérance et que les propos qui avaient pu apparaître comme des propos de stigmatisation ou d'exclusion d'une religion n'étaient pas conformes à l'esprit de la Convention. Et ce n'est pas parce que cette décision concernait l'islam que nous devons nous dispenser de mesurer le prix de cette liberté de religion pour le sujet que nous traitons ce soir. Je voudrais donc maintenant vous dire pourquoi, à mes yeux, cet apport légitime est également heureux pour la vie démocratique. La laïcité, c'est aussi un art de vivre ensemble. Et ceci nous donne, à nous, chrétiens, une responsabilité particulière. Je vois au moins trois raisons qui justifient cette conviction. La force que donne le fait de croire, le trésor que représentent les grandes traditions spirituelles et philosophiques du christianisme, et d'une manière générale des grandes religions, et la mise en pratique de l'exigence évangélique de la fraternité. La force de croire, il a fallu l'épreuve des totalitarismes pour que l'on découvre à quel point, à travers le martyre de pasteurs ou de prêtres, que, pour reprendre l'expression d'un prêtre orthodoxe assassiné en 1990, figure de la résistance contre le communisme, et qui disait que la liberté naît des profondeurs spirituelles de l'homme. Adam Michnik, juif agnostique polonais, figure de Solidarnosc, disait à ses camarades du syndicat qui critiquaient le conservatisme de l'Église polonaise que la liberté de religion était le signe le plus réel du fonctionnement des droits civils. Et il rappelait que la seule chose qu'un pouvoir totalitaire ne pouvait pas faire, c'était d'interdire aux hommes d'obéir à l'injonction de Pierre et des apôtres, il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. La grande résistance birmane, Aung San Suu Kyi, dit dans un de ses livres qu'elle trouve la force de résister à un régime dictatorial dans cette fermeté spirituelle que lui donne la conviction de soutenir une cause qui est juste. Dans notre état de droit, garant des libertés, l'intervention des croyants dans le débat avec les grandes traditions politiques et philosophiques constitue, de mon point de vue, une interpellation heureuse et utile pour la vie démocratique. Il est de la vitalité d'une démocratie de permettre la confrontation, même rude, des opinions. En revanche, si les croyants peuvent et doivent dire ce que leur conscience leur commande, ils le sauraient, évidemment, dans une république laïque, pas plus que leurs églises, imposer leur morale à l'État. En second lieu, le christianisme est un trésor pour penser les questions de ce qu'on appelait la vie bonne, du sens de l'existence humaine. Emmanuel Lévinas, dans un de ses écrits, invite ceux qui adoptent, dit-il, une posture anti-religieuse systématique à renoncer à leurs clichés et à prendre la mesure de ce que les Écritures enseignent pour développer la conscience morale, faite, dit-il, de responsabilités incessibles et urgentes. Le plus grand risque aujourd'hui serait de ne pas répondre à l'interrogation fondamentale qu'il formule ainsi, je le cite, « Démocratie et droits de l'homme peuvent-ils sans danger se détacher de leur profondeur prophétique et éthique sur les relations sociales et la solidarité, la justice, la famille, l'éducation, la bioéthique et d'une manière générale sur la vie collective, nous avons, nous croyons, des choses à dire. Le pape François l'exprimait encore récemment en disant qu'il était impossible pour un croyant de construire une société qui soit une authentique maison commune tout en imposant de mettre de côté ce que chacun considère comme la part intime de son être. Au demeurant, ne serions-nous pas condamnés en quelque sorte au communautarisme si nous devions réserver à nos seules communautés de foi nos convictions ? Rien n'est plus nécessaire et salutaire que de s'exercer à la critique de ses convictions. Enfin, c'est dans l'espace public que peut se vivre l'exigence de fraternité qui réunit républicains et chrétiens. Il est vrai que les républicains n'ont pas de père et qu'au moment de la Révolution française, on a cherché à faire de la nation une mère, mais ça ne suffisait pas. L'espace public ouvert à toutes les expressions, c'est l'obligation de mesurer son propos et de pratiquer le respect de l'autre, car la force d'une démocratie, c'est d'accepter la diversité des siens. Nous partageons un territoire. Et ce qui est au principe de la laïcité, contrairement à ce que nous avons dans notre imaginaire, ce n'est pas la guerre, c'est la paix civile. La République nous réunit dans la conviction que la violence est la mère de tous les maux. Lévinas, que je citais il y a un instant, dit que les religions rejoignent l'idéal de la laïcité quand leurs fidèles ressentent l'absence de la paix comme l'absence de leur Dieu. L'absence de la paix comme l'absence de leur Dieu. La laïcité, c'est l'affaire de l'État qui doit faire respecter l'honorable paix publique dont parle la déclaration conciliaire d'Initatis Humanae, mais c'est aussi notre affaire à tous, parce que la laïcité est un terrain d'apprentissage de la bienveillance, de la tolérance et de l'acceptation de l'autre. Et pour nous, chrétiens, c'est une injonction particulière. Heureux les artisans de paix. Je conclus. Pour nous, catholiques, fidèles d'une religion longtemps dominante, je me souviens de mes études au lycée, les laïcs, c'était les ennemis et c'est très commode d'avoir un ennemi. Il me semble que nous devons nous convertir collectivement à l'esprit de la laïcité parce que celle-ci nous protège. Ça ne veut pas dire que c'est simple, c'est un rapport de force. Mais devenu minoritaire aux côtés de nos frères croyants dans une société sécularisée, nous avons, me semble-t-il, à faire face à un double enjeu. Un enjeu politique, celui de défendre bec et ongle la liberté de religion comme un droit fondamental. La séparation des églises et de l'État préserve la liberté des croyants et la liberté des citoyens. Pourquoi devrais-je me priver, dans ma liberté de citoyen, de la force que me donne ma foi ? Pourquoi devrais-je, dans ma liberté de croyant, me priver de cette exigence que Saint-Pierre donne dans l'Épître, dans sa première épître, celle de devoir rendre compte en raison à quiconque le demande de l'espérance qui m'habite. Et l'enjeu pastoral, me semble-t-il, est de bien choisir nos armes. Insister sur un style de vie, sur ce qui nous fait croire, non pas nous livrer ce qui est une tentation permanente à une surenchère identitaire, au risque de susciter de fortes réactions, mais mettre en œuvre comme autant d'injonctions les béatitudes en travaillant inlassablement à la miséricorde, à la justice et à la paix. Je vous remercie de votre attention.
Voilà, merci beaucoup Jean-Pic pour votre intervention. Parmi tout ce que vous avez dit, je note en particulier deux expressions très, très centrales, la laïcité comme cadre juridique, et il est important qu'elle soit considérée comme telle, et cet art de vivre ensemble, et qui demande beaucoup d'appréciation, de jugement. Précisément, c'est un art, avec tous les équilibres que cela peut supposer, toute l'imagination aussi et la recherche que cela peut supposer. Monsieur Claveroli, vous avez la parole. Voilà, jusqu'à 20 minutes. J'avais dit d'abord aux intervenants qu'ils avaient droit à 20 minutes, puis après je leur ai dit 15 minutes, ce qui les a parfois gênés dans leur préparation. Donc voilà, le temps nécessaire de se prendre.
Et tout d'abord, un grand merci pour cette invitation de ce soir, qui, si j'ai bien compris, est l'occasion de la clôture d'un cycle et peut-être l'ouverture d'un prochain. Et j'aimerais à mon tour répondre à la question que peut apporter le christianisme dans l'espace public avec évidemment un angle bien différent de celui que vous venez d'entendre, et c'est ainsi que la discussion pourra s'enrichir, je l'espère. Et je commencerai par la citation d'un prédicateur, d'un pasteur qui, à Lyon, en 1944, disait ceci: « L'Église est le maquis du monde ». Il ne s'agit donc pas de prendre le pouvoir, mais d'organiser la résistance en attendant le grand débarquement du royaume de Dieu. Le pasteur Roland Pury a été arrêté par la Gestapo et les choses se sont heureusement pas trop mal terminées pour lui. Cette citation replace délibérément le christianisme, et en particulier dans sa version protestante, devant l'exigence de la réflexion sur son rapport au politique. Elle oblige à relire Romains 13, le fameux chapitre de l'épître de Paul, interprété par Karl Barth après la Première Guerre mondiale, non comme une injonction à la soumission au pouvoir, ou au contraire à son rejet en vue d'une fuite au désert, mais à la recherche d'une relation juste à son endroit. Cette citation désigne aussi l'Église et le christianisme non comme une institution d'abord, ou comme une instance d'autorité, ou au contraire comme une sorte de service public chargé de la morale et de la paix des ménages et de la cité, mais comme acteur de transmission d'un message d'espérance et de résistance, comme sentinelle des temps qui viennent et qu'il faut annoncer. Il s'agit donc de se faire connaître, de faire connaître un message, une information, et d'oser passer inlassablement de la clandestinité au grand jour. L'agora d'Athènes que Paul a fréquenté ne lui a certes pas toujours réussi en tant qu'espace de dialogue et de communication. Si vous avez des souvenirs de vos lectures anciennes ou récentes, l'agora n'a pas été propice à la transmission de l'évangile un jour à Athènes, mais il y a bien dû y avoir quelque espace public dans cet empire pour que circulent finalement jusqu'à nous les idées évangéliques et le message du Christ. Quelque chose est donc passé, malgré tout. L'existence de ce que l'on nomme aujourd'hui l'espace public est définie comme un des signes majeurs des régimes démocratiques. Et il faut à la fois se réjouir de cette réalité et prendre conscience que cette réalité peut soudain se révéler fragile et se trouver menacée par des événements et des logiques de violence qui s'enchaînent, et où le vivre ensemble est mis en péril. L'espace public, dans une république laïque, est le lieu lumineux et fragile qui est au service de la délibération démocratique, préparant l'opinion et, le cas échéant, engageant une société vers une décision commune. Une société qui ne soit donc pas saturée par le tout politique, qui ne soit pas saturée par le pouvoir militaire et policier, mais aussi une société qui ne soit pas saturée par le religieux. J'ai cette expression qui me vient, mais que je vous laisse. La religion, c'est bien, mais point trop n'en faut, comme le sel dans la soupe. Les relations des religions avec cet espace public sont complexes et ont une histoire, autant que les relations des religions avec le pouvoir en France. Mais nous pouvons tracer à grands traits deux régimes de relations et voir apparaître en ce moment même un troisième type de relation, si je peux nommer ainsi les choses dans une suite chronologique. Premièrement, un régime de relations proches, intimes, quasi fusionnelles, n'empêchant pas les conflits, mais créant une collision et une collusion peu propice à la démocratie. Un espace public restreint, une marge de manœuvre limitée de la religion. C'est après le temps de la monarchie ce qui sera appelé le régime concordataire. établissant le lien de dépendance qui, durant tout le XIXe, marquera les relations entre le christianisme, version catholique là pour le coup, mais aussi quand même d'une certaine façon aussi version protestante, et le pouvoir. L'espace public sera celui que la presse va créer à force de lutte, osera aménager avec les clubs, les sociétés savantes, les cercles d'intellectuels, les penseurs, contre cette société cadenassée. Un espace riche et fertile, mais finalement réservé à l'élite politique, universitaire, artistique et aussi religieuse, il faut bien le reconnaître. Et le deuxième régime est celui de la séparation dont on vient de parler, tel que nous le connaissons aujourd'hui grâce à la promulgation de la loi du 9 décembre 1905, qu'aujourd'hui tout le monde célèbre, mais que dans les années 1910-15-20, beaucoup de Français ne qualifiaient pas de loi de Concorde. Cette loi ne parle pas de laïcité. Le mot n'y est pas employé, bien que régulièrement on la désigne comme la loi de la laïcité. Ce n'est pas son sujet. La loi de 1905 organise le culte public dans le pays. Elle organise le culte public. Et j'insiste sur ce mot parce que souvent la tentation est de dire qu'au fond la religion doit être réservée à l'espace privé. Et il se trouve que cette loi sépare les partenaires qui étaient liés jusque-là, établit cette liberté de culte, et ce régime de séparation, qui est un régime maintenant apaisé, prend toutefois les chemins de la neutralisation par une sorte de fièvre obsidionale qui le crispe, empiétant sur la société qui, elle, pourtant n'est pas destinée à être laïque. Je vous le rappelle, c'est la République qui est laïque, mais non pas la société ni même ses citoyens qui font ce qu'ils veulent. Et je plaide par conséquent partout où je me trouve, et je le fais ici, pour une laïcité décrispée, décontractée. Mais le troisième type que l'on voit se dessiner est enfin celui de l'exclusion. Pour reprendre les mots du politologue Olivier Roy, ou de l'exculturation, un mot forgé par Daniel Hervieux-Léger, qui me plaît bien aussi, une relation donc qui pourrait ne plus être qu'un vague lien, une référence presque effacée dans la mémoire, oublieuse, d'une république entrée de plein pied dans la postmodernité. Depuis 1905, nous sommes ainsi passés d'un régime de la catholicité à celui de la laïcité, selon l'expression d'Émile Poula, et je voudrais citer ces mots. Aux sources intellectuelles de cette idée de laïcité comme liberté de conscience se trouve la philosophie des Lumières et son combat pour supprimer toute discrimination, même religieuse, en ouvrant l'espace public sans condition préalable d'orthodoxie. Il s'agit de passer d'un espace fermé en vertu de la vérité catholique, c'est toujours lui qui cite, c'est pour ça que je me permets de le préciser encore une fois, il s'agit de passer d'un espace fermé en vertu de la vérité catholique, qui considère comme fausse toute autre religion, à un espace ouvert au nom des libertés reconnues à tous. La laïcité définit un espace public ouvert à tous. L'Église catholique a continué à exister à l'intérieur de la laïcité, mais elle a dû apprendre à faire place à d'autres qu'elle. Du coup, chaque confession s'est trouvée placée dans cet espace à équidistance des autres, de même qu'à équidistance des autorités et des pouvoirs. La laïcité met donc fin à une forme de monopole. Premier point d'étape, donc le christianisme dans sa version protestante n'est donc pas en surplomb de la société ou accoudé au balcon de l'immeuble, au-dessus de la place, au-dessus de l'agora, se considérant comme préservé du tumulte de l'espace public ou attendant son heure pour avoir le dernier mot qui serait universel, valable, applicable, ici, au loin et pour toujours. Urbi et orbi, ben c'est traduit en latin comme ça. Au contraire, se percevant comme un coproducteur de la laïcité, le protestantisme se veut aussi compagnon de route de la République et de son histoire. Y compris, et j'y insiste, dans ces derniers combats que cette République a tant de mal à remporter elle-même après les avoir énoncés. Pourtant, égalité homme-femme, Dieu sait si ce combat est long et difficile, exclusion, pauvreté, éducation, asile, sexualité, homosexualité, fin de vie, écologie et bientôt transhumanisme, mais là je laisse les moralistes et les éthiciens experts nous éclairer sur ce sujet. Les choses bougent donc, ce processus de participation active au débat dans l'espace public se poursuit, mais il faut prendre en compte une mutation profonde de la société. Il faut prendre conscience que cette mutation conduit chaque confession et finalement chacun des acteurs de la société à se rendre compte que tout est mouvant, tout apparaît ou tout y disparaît, l'islam, les nouveaux mouvements religieux, les églises chrétiennes issues de l'immigration, etc. La grande conversation démocratique s'enrichit donc peu à peu, s'élargit à des partenaires jusque-là ignorés ou méprisés. Et je vous rappelle que jusque dans les années 60, l'islam était de loin la première religion du pays, mais personne ne s'en était rendu compte, comme dans un impensé républicain qui avait empêché le monde d'organiser le culte musulman dans le pays même. Deuxième point d'étape, cette mutation, cette profonde mutation du paysage religieux et du paysage social a conduit à une rupture, au fond, une exculturation du christianisme, une excommunication réalisée par les laïcs, enfin, à jeu renversé, hein, une excommunication par la société laïque des religions, et l'apparition de religions sans culture, hors sol, en quelque sorte, je pense ici au mouvement pentecôtiste ou des églises issues de l'immigration, des églises qui sont transportées des pays du sud ou de l'est ou de l'ouest en Europe et qui sont sans réel enracinement. De même d'ailleurs que l'islam qui a tant de peine à s'inculturer dans la société. Et l'on assiste inversement à une culture sans culte, une culture laïque sans référent essentiel qui serait de l'ordre du cultuel ou du spirituel, une culture sans culte que je redoute vraiment, parce qu'alors elle serait sans orient. Devant cette situation nouvelle, la réactivation des discours identitaires et conservateurs, par crainte évidemment, les réaffirmations convictionnelles de la doctrine, la réaction même dans la rue, contribue encore à faire percevoir la religion par la société comme un donneur d'ordre de mauvaise humeur et non comme un contributeur apaisé. Et contribue même à laisser s'enfermer la religion toute seule dans un corner que j'appellerais sociétal, puisque ça n'est plus que là que l'on attendrait le discours des religions. Et par malchance, le discours délivré est tout à fait décalé par rapport à l'attente des citoyens. L'éthique ici, l'éthique proposée, court le risque toujours d'être marginalisée, d'être en tout cas rendue inaudible. Le sursaut qui permet à la religion de tromper cette vision peu optimiste, je vous l'accorde, consiste alors à passer de l'espace public à la scène publique, ce qui est un peu autre chose, à utiliser les médias et du coup à prendre le risque de se laisser instrumentaliser par eux, à les prendre comme planche de salut, parce que là on existe, on est vu, on est entendu. Le sursaut consiste donc à, malheureusement, se justifier par les œuvres d'un communiqué de presse, par les œuvres d'une apparition télévisée dont l'audimat, s'il est bon, effacera d'un coup la peine ressentie de cette mise à l'écart douloureuse. Et alors, comme l'écrit Schlegel, un sociologue que vous connaissez évidemment ici, je m'imagine, ce qui se passe, c'est une nouvelle présence des religions, le franchissement des frontières laïques, une visibilité vestimentaire, rituelle, perçue comme agressive et des revendications inacceptables. Et il cite les costumes religieux des prêtres catholiques, les voiles des musulmans. On pourrait aussi parler des visites du pape et de la visibilité que lui donnent les télés, et bien entendu la visibilité des pentecôtistes et des fondamentalistes protestants. Troisième point d'étape, l'espace public n'est pas la scène publique. Et les religions, quand elles se laissent ainsi utiliser avec gourmandise et orgueil, y compris le christianisme, se révèlent parfois inquiétantes et même comme des dangers publics, ce qu'elles sont en vérité. Enfin oui, je vous l'avais pas dit, mais les religions sont des dangers publics lorsqu'elles ne sont pas toujours à se remettre en question, lorsqu'elles ne sont pas, comme dit Paul Ricoeur, toujours en chasse de leurs propres démons. lorsqu'elles ne voient pas l'altérité, lorsqu'elles ne se rendent pas compte qu'elles ne sont pas seules détentrices de la vérité. Quatrième point d'étape, et j'arrive vers la fin, ici nous pourrons dire que le protestantisme n'est pas exempt de ses critiques, mais nous pourrons tout aussi bien affirmer que lorsqu'il se tourne vers ses sources vives de la réforme, il se doit de retrouver ce qui lui donne sa grâce et son élan, et il peut alors rappeler avec quelque crédibilité à la République que la République ne peut pas tout, qu'elle ne pourra pas tenir ses promesses toute seule, sans les citoyens et sans les ressources du christianisme, sans ces énergies qui œuvrent au service de la justice. Le protestantisme pourra, dans l'espace public, faire valoir sa parole sur la pertinence et l'impertinence d'une éthique qui ne se veut en aucun cas normative ni définitive, mais toujours en recherche. Et il se tiendra aux aguets des souffrances et des attentes des hommes. Il pourra alors faire valoir l'exigence de responsabilité, l'exigence de la solidarité et l'exigence du soin auprès du plus vulnérable. Et je termine avec cette expression que j'ai déjà évoquée, je l'ai repiqué, vous savez comment on fait dans ce genre de travail sur soi, hein. Je l'ai repiqué à gauche, à droite et reformulé, mais je pense que le protestantisme peut être producteur de sens, au sens de ressources éthico-symboliques, d'annoncer un message qui dérange, qui décale, qui ennuie un peu, qui agace. Être fournisseur de sens, mais aussi être fournisseur de soins par l'engagement auprès des plus vulnérables, depuis les hôtels-dieux du Moyen-Âge jusqu'au lit de soins palliatifs. Fournisseur de sens, fournisseur de soins, mais aussi, et je le dis ici alors tout à fait tranquillement, le protestantisme peut enfin aussi être fournisseur de saints, au sens de témoins, des personnes, des hommes, des femmes qui, par leur engagement, leur cœur, leur intelligence, font sens, mais au sens chrétien du terme, pour ceux qui ont la chance de les rencontrer. De sorte que, porteur de sens, de soins et de saints, le christianisme, et là je crois que c'est le christianisme dans son ensemble, peut être entendu et légitime, il peut même traverser le désert médiatique qui brûle celui qui s'y arrête et s'y complaît, et en sortir béni. Il peut enfin, telle la sentinelle, discerner ce qui advient, non pour y consentir, non pour s'en effrayer, parce que demain est le lieu des promesses encore inaccomplies du royaume, mais pour le vivre sous le regard de Dieu. Voilà, je trouvais que terminer par le mot Dieu, c'était pas mal. Et donc, je vous remercie.
C'est en effet un mot qui convient. Voilà, merci à vous pour votre apport, pour votre contribution. Je pense que nous aurons l'occasion de revenir sur ce qui est fourni, voilà, le sens, les soins, les saints comme témoins. Je crois que c'est une belle manière de parler des ressources possibles. On peut noter aussi l'image que vous avez employée au début, enfin, du pasteur de Puri, du maquis et de la résistance et de tout ce qui peut s'évoquer, hein, à travers cette image. Alain Thomasset.
Voilà, merci. Les événements récents ont eu tendance à rendre plus tendue la relation entre le christianisme et la société, on en a plusieurs exemples, et plus largement entre les religions et les pouvoirs publics. Mais je ne voudrais pas faire une analyse de ces évolutions récentes, je voudrais surtout insister sur des éléments fondamentaux qui me semblent à la racine de la vie sociale et qui permettent de comprendre l'apport particulier du christianisme dans l'espace public et la vie démocratique. Je crois qu'on peut mettre en valeur trois contributions essentielles à l'espace public. Alimenter de l'intérieur des valeurs de base de la société, jouer un rôle de veilleur, on a déjà parlé de la sentinelle, et troisièmement, offrir des raisons d'espérer et de vivre. Je reprends ces trois points. D'abord, alimenter de l'intérieur des valeurs de base de la société. Je crois qu'il faut faire un peu d'histoire, comme on l'a déjà fait jusqu'à présent. Le problème actuel tient à l'évolution du pluralisme dans nos sociétés. La création de la République française s'est construite en grande partie sur l'opposition à l'Ancien Régime et au catholicisme qui le soutenait largement. Mais il ne faut pas oublier que cela supposait en réalité un large consensus sur les valeurs éthiques et les conceptions anthropologiques à l'époque. Je me cite, on a cité un Chateaubriand à l'Assemblée, je citerai Jules Ferry. Jules Ferry, dans un célèbre discours à l'Assemblée nationale, dit « Notre morale laïque, c'est la morale éternelle, celle de Kant, celle du christianisme, la nôtre, la vôtre. » Vous voyez qu'à l'époque, il y avait une sorte de consensus sur les valeurs, mais le débat portait sur le fondement de ces valeurs. Les uns disaient « c'était la raison », les autres disaient « c'est Dieu » ou « la foi ». Aujourd'hui, évidemment, ce consensus culturel spontané a disparu. Il était en large partie hérité du christianisme, bien sûr. Et nous avons un pluralisme qui touche non seulement les pratiques religieuses ou les fondements moraux, mais aussi les conceptions anthropologiques, les visions de la vie bonne. La question aujourd'hui est devenue comment fonder notre vivre ensemble. Je dirais comment susciter des individus qui aient le goût de l'autre, le goût des autres. Comment faire que des individus s'engagent au service du bien commun? Comment alimenter de l'intérieur le dynamisme de l'élan pour les autres qui est nécessaire à toute société si elle ne veut pas tomber dans un individualisme ou dans le délitement du lien social? Aucune société, et à plus forte raison les sociétés démocratiques, ne peut vivre sans ce décentrement du sujet de lui-même vis-à-vis d'un plus large que lui-même, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de la société, vis-à-vis du bien de la communauté tout entière. J'en veux pour preuve que les pouvoirs publics successifs, de droite ou de gauche, depuis une vingtaine d'années, ont pris conscience de ce problème et cherchent à réintroduire sous des noms divers un enseignement de la morale à l'école. Ça a beaucoup changé de nom, je ne sais même plus quel est le dernier. L'école publique cherche ainsi à renforcer la conscience des valeurs communes de la République et veut éduquer aux normes élémentaires de la civilité et du vivre ensemble. C'est très bien. Cet enseignement, évidemment, est central, est essentiel. Mais il reste souvent limité à l'exposé des institutions et des principes de la démocratie. Il demeure souvent très formel. Et il risque fort de n'avoir qu'un impact très limité, car il est bien souvent dans l'incapacité de fournir une motivation, ce qui rend ces principes attrayants, vivants. Toute société, toute démocratie a besoin d'une énergie culturelle qui l'alimente de l'intérieur. Je crois que le christianisme, avec d'autres forces spirituelles, peut fournir cette énergie, cette motivation, cette orientation pour la vie commune. Si plus personne ne possède le monopole des valeurs fondamentales de la vie en société, vous savez que c'était le catholicisme qui avait ce monopole, si plus personne aujourd'hui ne revendique ce monopole, il faut pourtant recréer un certain consensus. On a besoin d'un certain consensus. Celui-ci ne naîtra pas de rien. Il ne peut naître que d'un dialogue entre les différentes traditions philosophiques et religieuses d'une société donnée. Une discussion entre les traditions philosophiques et religieuses raisonnables qui ont renoncé à la violence doit pouvoir aboutir à un certain consensus sur les valeurs de base fondamentales de la société, même si ces différentes traditions alimentent ce consensus pour des raisons différentes, parce que chacune l'enracine dans sa propre tradition. Il s'agirait essentiellement des valeurs proprement politiques du vivre ensemble. La liberté, la tolérance, la solidarité, la dignité inviolable de la personne, mais aussi le souci du plus faible, l'accueil de l'étranger, les devoirs vis-à-vis de la société, etc. J'aime bien citer un extrait d'une conférence que le cardinal Lehmann, qui était à l'époque président de la conférence épiscopale allemande, a prononcée ici même. Il disait... Si l'État fonde son existence sur des principes, sur des prémices qu'il ne peut pas garantir lui-même, L'État ne peut pas finalement se justifier lui-même dans son propre fonctionnement. La société trouve quand même finalement un compromis fondamental qui se nourrit d'une convergence et d'un dialogue entre une multitude de projets de vie et de projets éthiques concrets. Une multitude de projets de vie et de projets éthiques concrets. Ces projets de vie doivent être proposés au dialogue public pour l'élaboration d'un compromis social grâce à un témoignage crédible, bien argumenté, éloquent. C'est lorsque, dit-il, les Églises restent fidèles à leur singularité et qu'elles exercent résolument leur mission la plus proprement spécifique, que ces Églises s'acquittent au mieux de leurs devoirs en faveur des valeurs fondamentales de l'État que sont la liberté et la démocratie. Vous voyez, ce cardinal disait, c'est quand les Églises sont vraiment elles-mêmes, d'une certaine façon, qu'elles alimentent de l'intérieur ce qu'est la liberté et la démocratie. Je crois que par leur pratique, par leur éducation, par leur tradition, les religions, et le christianisme en particulier, alimentent de l'intérieur l'esprit de vraie liberté, le sentiment de citoyenneté et d'engagement vis-à-vis des affaires publiques. C'est pour ça que le christianisme peut, en France, je crois, donner force et profondeur à des notions qui sont essentielles pour la vie commune, mais qui risquent aujourd'hui de devenir des fleurs coupées dans un vase, vous voyez, parce qu'elles ne sont plus alimentées de l'intérieur. Et ces fleurs coupées vont se dessécher. Comment est-ce qu'on alimente de l'intérieur le sens de la solidarité, le sens de la justice, le sens du goût pour l'autre, dont je parlais tout à l'heure? Le sociologue Jean-Paul Villaine, dans un numéro récent de la revue Projet sur les relations dans l'espace public, rappelle que dans une société où les liens sociaux sont fragiles et où la mondialisation peut entraîner le repli sur soi ou la peur de l'autre, on connaît ça, les religions, dit-il, offrent des ressources identitaires et éthiques essentielles. Et il dit, elles offrent du sens dans les trois acceptions du terme, c'est-à-dire des significations de vie, de mort, de bonheur, de malheur, des orientations, un sens, une orientation de vie, une orientation pour guider son existence, et aussi des sensations, c'est-à-dire des façons de sentir des émotions individuelles ou collectives, quelque chose de l'ordre de la passion, finalement. Le christianisme offre ainsi, avec d'autres traditions religieuses, des ressources symboliques essentielles pour situer la personne dans son environnement, nourrir des engagements solidaires et profondément altruistes. Et ça m'amène évidemment à la deuxième manière, pour le christianisme, de contribuer à la vitalité de l'espace public, celle de jouer le rôle de veilleur. On a déjà parlé de ça tout à l'heure. Le christianisme, je crois, peut et doit exercer une posture de vigilance, une posture d'interpellation par rapport à des dérives possibles de la vie sociale sur des sentiers qui nous semblent incompatibles avec l'Évangile. Jean-Paul II, aussi par son expérience polonaise, a souvent insisté sur cette dimension contre-culturelle du christianisme qui vise à défendre l'homme contre les atteintes à sa dignité. Les chrétiens peuvent et sans doute doivent-ils réagir lorsque les pouvoirs publics outrepassent leur domaine et veulent régenter toute la vie sociale, ou bien lorsqu'ils entrent en contradiction avec les valeurs des droits de l'homme qu'ils prétendent défendre. D'une certaine façon, c'est une manière de rappeler à la démocratie sa propre vocation de défense de l'homme, dans toutes ses dimensions. Cette forme de résistance face à une tyrannie latente des opinions ou des États s'est bien souvent manifestée en France récemment. Je pense aux questions de pauvreté, la dénonciation d'un État de pauvreté, sur l'accueil des étrangers, sur la question des Roms plus récemment. Mais c'est évidemment aussi sur les questions familiales ou de filiation où la tension est la plus forte, dernièrement en tout cas. L'Église est dans son rôle prophétique lorsqu'elle dénonce les injustices, les discriminations, les atteintes aux droits des enfants ou des minorités. Encore faut-il que cette contestation se fasse d'une manière qui soit conforme à l'Évangile, c'est-à-dire sans violence, et dans le respect, l'écoute et l'ouverture face aux adversaires potentiels. Et à ce propos, je voudrais insister sur un point particulier. Cette démarche de veilleur, à mon sens, ne consiste pas seulement à défendre des points de vue, mais à se laisser bousculer soi-même par des intrus que l'espace public habituellement ignore. Je pense évidemment aux petits et aux pauvres, aux personnes marquées par l'exclusion, la précarité ou le handicap. Nous avons à être les veilleurs de leurs paroles. À la suite du pape Benoît XVI, l'Église de France a lancé la dynamique diaconia pour redécouvrir la centralité de la solidarité comme élément essentiel de la mission de l'Église. Or, à cette occasion, nous a été révélée la force de la parole des pauvres. Une parole qui a autorité. Une autorité qui vient de la traversée des épreuves, qui vient avec des mots qui ont été gagnés sur le silence, l'enfermement ou les rudes batailles menées contre les blessures multiples de la vie. Lors du rassemblement de Lourdes à l'Ascension 2013, ils nous ont ainsi partagé leurs peines, leurs espoirs, et nous ont invités à vivre un nouveau chemin. Je vous cite une citation du groupe Place et Parole des Pauvres, un groupe qui a préparé longuement cette intervention, plus de 2 ans. Diaconia, ont-ils dit, ça peut être le début d'autre chose. Réveiller l'Église à une autre dimension, c'est-à-dire une manière de suivre le Christ dans sa manière à lui d'être avec les pauvres. Parce que lui, Jésus, il a traversé le même chemin que les pauvres. Fin de citation. Cette familiarité des pauvres avec le Christ, qui bousculait déjà les apôtres dans l'Évangile, on vous voit bien, eh bien nous bouscule à nouveau. Les pauvres ont une sagesse particulière qui vient de leur expérience unique. Ils peuvent nous aider à découvrir le Christ en vérité, mais ils peuvent aussi nous dire comment faire pour construire une société plus juste et plus fraternelle. Et en ce sens, leur parole touche à un point vital de la démocratie. Quelle place donnons-nous à l'expression des personnes marquées par la misère et le malheur dans le débat public ? C'est pas une petite question. Pourtant, ces personnes sont les mieux placées pour nous dire comment organiser un monde qui n'oublie personne. Avec ces personnes, nous sommes replacés au cœur du politique. On ouvre à nouveau le jeu démocratique, on lui redonne sa vigueur. Car avec eux, chacun est renvoyé à sa raison d'être et de vivre, à son projet d'existence. Avec la démarche de diaconia, les chrétiens redécouvrent qu'ils sont invités à se laisser bousculer par cette rencontre, où Dieu se révèle et où l'homme se dit dans sa vérité et sa dignité. Lorsque les chrétiens s'engagent à la recherche de ceux qui sont repoussés au bord du monde ou qu'ils vont vers les périphéries, comme le dit le pape François, quand ils sont témoins avec eux de ces rencontres, ils sont pleinement dans leur mission. Et en cela, ils apportent à la société une expertise unique. Ce n'est pas une vérité qu'ils détiendraient comme une propriété, mais le témoignage d'une vie et d'une espérance qui vient de plus loin qu'eux-mêmes. Et je crois que c'est vraiment important dans une société. Cela m'amène évidemment directement à la troisième manière pour les chrétiens de contribuer à enrichir l'espace public, qui est celle d'offrir des raisons d'espérer et de croire. J'ai parlé du dialogue, j'ai parlé de la vigilance prophétique, je crois qu'il est essentiel aussi que les communautés chrétiennes jouent un rôle utopique. Utopique au plein sens du terme, c'est-à-dire en offrant un imaginaire de convocation, un imaginaire de mobilisation qui oriente les énergies vers la construction sociale et pour les chrétiens dans l'espérance du royaume, on en parlait. Je vous cite simplement un petit extrait du Concile Vatican II qui me paraît d'une brûlante actualité. Gaudium et Spes au numéro 31. Pour que tous les citoyens soient poussés à participer à la vie des différents groupes qui constituent le corps social, il faut qu'ils trouvent en ceux-ci des valeurs qui les attirent et qui les disposent à se mettre au service de leurs semblables. On peut légitimement penser que l'avenir est entre les mains de ceux qui auront su donner aux générations de demain des raisons de vivre et d'espérer. À ce titre, je crois, l'Église est amenée à intervenir dans les débats de société en proposant des perspectives à long terme, à intervenir en interrogeant le sens ultime des actions, quelle est la perspective, quel est le projet qu'on se donne, en rappelant les exigences éthiques d'une vie en commun telle qu'elle peut être vue dans le projet de la création et du salut en Jésus-Christ. En France, il y a eu beaucoup d'exemples de cela, des documents publiés par exemple par la Commission sociale de l'Épiscopat il y a quelques années, sur le sens du travail, sur la drogue, le sida, l'immigration, le logement, ou plus récemment sur les questions bioéthiques, qui ont contribué à élever le débat pour poser des questions fond de notre société vis-à-vis de l'avenir des jeunes, des étrangers, des exclus, des personnes fragiles, ou encore, et ça on va le voir bientôt, sur les questions portant sur les générations à venir et la question écologique. Notre société a besoin d'espérance autant que de pain et de travail, peut-être même davantage, et je crois que les chrétiens peuvent en être les témoins. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Alain. Alimenter des valeurs de l'intérieur, à partir de la source, une posture de vigilance, et puis offrir des raisons d'espérer et de croire. Voilà, tu nous as apporté des éléments de réflexion tout à fait importants pour ce qui nous réunit ce soir. Et on sent à travers tout cela comme autant de tâches fortes pour les chrétiens, mais à l'intérieur de la société et dans un processus de démocratie et de dialogue. Nous avons maintenant un bon temps pour des questions. Un micro va circuler, nous prendrons plusieurs questions. Je signale aussi qu'il reste quelques places devant, parce que je vois beaucoup de personnes assises par terre, ce n'est pas très confortable. N'hésitez pas à avancer, il y a au moins 3, 4, 5 places. Voilà. Nous serons moins seuls. Voilà, donc vos questions, eh bien, nous verrons à qui elles s'adressent. Elles s'adresseront peut-être aux 3 intervenants à la fois et chacun pourra apporter son éclairage propre. S'il le faut. Alors, manifestez-vous bien, parce que j'ai du mal à voir parmi 300 personnes.
Au dernier rang, là-bas.
Au dernier rang, me dit-on.
Avant-dernier.
Avant-dernier.
Oui, ma question s'adresse au pasteur. Vous avez parlé d'excommunication des religions par la société laïque et d'apparition d'églises hors sol. Et là, vous avez parlé des évangélistes et de l'islam. Alors, moi, j'aimerais bien que vous expliquiez un peu cette notion d'église hors sol, parce que moi, je l'entends à travers les exemples que vous donnez, comme des églises bon, qui ne sont pas nées sur le sol européen. Donc, je pense que ce n'est pas ça que vous avez voulu dire. Mais donc, j'ai un peu de mal à comprendre cette notion d'église hors sol, si vous pouviez l'expliquer. Parce que notamment pour l'islam, pour moi, ça n'est pas du tout une église hors sol.
Bah, peut-être que c'est une question très précise.
Oui, je peux juste préciser donc l'évocation de cette expression « église hors sol ». C'est vrai que c'est une expression... Je ne sais pas si vous avez déjà vu des fraises qui sont cultivées hors sol. Elles sont très bonnes, hein. Elles sont même sucrées comme il faut, comme il convient, mais elles sont hors sol. C'est-à-dire qu'elles sont ultra fragiles. Ultra fragile. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il existe depuis maintenant, on va dire, une 60aine d'années dans ce pays, toute une série d'églises issues de l'immigration de tous les continents et qui sont en phase d'enracinement, d'inculturation, comme on disait dans les années 60, enfin d'enfouissement, et donc d'adaptation finalement à la société démocratique qui est la nôtre et qui est quand même très particulière dans le monde démocratique occidental et européen. Et donc il y a effectivement un apprentissage nécessaire à ces églises, à ces communautés naissantes ou récentes, de découverte et de socialisation dans une culture qui n'est pas celle qui est partagé par les membres de ces communautés. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point concernant l'islam, c'est aussi très délicat d'évoquer ça sans qu'il y ait à la table un représentant de cette religion, mais il est vrai que si l'islam est une religion très ancienne en France, enfin je veux dire qui remonte au Moyen-Âge, il n'empêche que un certain nombre de frictions sont apparues ces derniers temps dans la façon dont la laïcité et l'islam se sont rencontrés depuis le début du siècle. Et l'apparition maintenant, par le nombre de cette communauté musulmane, qui est bon, pour l'instant la deuxième communauté, peut-être bientôt la première dans le pays, va évidemment la mettre en situation, une sorte d'injonction, hein, d'enraciner à la fois son message et sa pratique dans une culture occidentale, démocratique, avec des points très précis, des points de passage très précis, peut-être des points, j'allais dire, initiatiques très précis, par lesquels sont passées les autres religions. Le rapport homme-femme, par exemple, c'est quelque chose, c'est un passage obligé. Alors, bon, les protestants ont peu de mal, mais enfin, ils essayent, les catholiques, un peu plus de mal, mais enfin, ils essayent aussi, les juifs aussi, bon, tout le monde a du mal avec ce problème. D'ailleurs, il y en a d'autres derrière, mais en fait, le rapport à la liberté de conscience, la possibilité de changer de religion, de quitter sa religion, de cracher sur sa religion, cette liberté-là, le fait de pouvoir se délivrer de cette religion et d'entrer dans une autre, ou de ne pas en avoir. Et puis enfin, l'organisation même du culte qui soit conforme à la pratique commune du pays. Vous voyez, trois points de passage, il y en a quelques autres. J'espère avoir répondu précisément.
Voilà, nous continuons dans les questions.
Bonsoir, j'ai une question, pas sur le contenu, parce que tout ce que vous avez dit est bon. Bravo.
Merci. Mais,
on a le sentiment que la parole chrétienne n'est plus audible, qu'elle est sortie de l'espace médiatique. Alors, est-ce que vous partagez cette analyse et est-ce que vous ne pensez pas que c'est un danger? Parce qu'effectivement, son influence est encore est affaiblie par ce phénomène. Et est-ce qu'il y a une parade?
Voilà, j'aimerais que l'on recueille encore une de questions. Intervention, réaction d'ailleurs, élément de contribution. Oui, Monsieur Vignon, au premier rang. Ou non, il y a une question au fond, oui. Vous parlez dans le micro.
Oui, moi je viens d'une culture totalement différente, chrétienne, même catholique, mais du point de vue de christianisme et catholicisme tout à fait différente. Un pays où on ne sépare absolument pas la religion et la laïcité, et que je suis étonnée à chaque fois qu'on essaye d'introduire même la dimension spirituelle, encore plus la dimension de la foi, dans des trainings, dans des séminaires, dans des cafés philo, etc. Vraiment, pratiquement, on a l'impression qu'on ne peut pas en parler. Et c'est très gênant parce qu'en fait, dans le monde, il y a unique pays, la France, où cette séparation existe. Peut-être les États-Unis, mais là-bas, on enseigne quand même la religion dans les écoles. Et cette séparation, je me demande si c'est bien compris et que pourquoi, si c'est pas bien compris, pourquoi on fait pas des débats et des formations pour que ça soit mieux compris. Vous avez dit que c'est surtout la République qui est laïque. Donc, on devrait pouvoir en parler, surtout aujourd'hui, et que ça ne devrait pas choquer personne. Donc, moi, ça me choque. Voilà ma question un peu. Pourquoi il n'y a pas plus d'efforts en France, par vous, par nous tous, de mieux faire comprendre cette dimension laïcité qui n'est pas pour étouffer la dimension spirituelle, ni émotionnelle, ni d'esprit, mais c'est au contraire attribuer et contribuer pour un mieux être dans cette société.
Entendu. Merci. Merci, madame. Voilà. Une troisième question.
Oui, je rebondis sur le mot de république qui vient d'être prononcé et qui a été aussi prononcé par le pasteur Claveroli. On est en république. Vous l'avez aussi prononcé, Jean-Pic. C'est-à-dire pas n'importe où, héritière d'une tradition religieuse et en particulier catholique. Vous avez présenté le protestantisme comme compagnon de route de la République et de son histoire. Ce n'est pas ainsi nécessairement, me semble-t-il, que les catholiques eux-mêmes se présenteraient, mais plutôt comme protagonistes. Et vient ma question. Pouvez-vous, sur l'exemple de la relation homme-femme, qui est un de ceux que vous avez donné pour suggérer que la République ne parvenait pas facilement à aller jusqu'au bout de sa mission, pouvez-vous nous dire en quoi, justement, la République a du mal aujourd'hui à aller jusqu'au bout et à vivre cette question selon l'héritage, l'histoire qui lui est assignée, et quel est ce que le protestantisme et le christianisme peut faire, s'il est suffisamment modeste au sens de Ricoeur, pour aider la République à porter ce débat de la relation homme-femme vers plus de vérité et d'espérance.
Voilà, merci. Trois questions. Nous allons commencer par la première qui portait sur le côté audible de la parole chrétienne. Jean, par exemple.
Je crois que vous avez raison. Pour qu'il y ait une parole chrétienne, il faut qu'il y ait des chrétiens qui parlent. Et il est vrai que nous avons deux difficultés, trois, je crois. Une première qui touche la tradition que j'évoquais dans mon propos, c'est-à-dire l'invitation pressante et puissante à taire ses convictions religieuses. Quand il ne s'agit pas de dire qu'on est croyant, mais simplement d'attester par les propos que l'on tient, qu'on s'inscrit dans une tradition, nous avons tous, en tout cas j'ai l'expérience dans plusieurs de mes activités, d'avoir eu le sentiment, sans faire preuve de prosélytisme, d'avoir suscité l'idée que ce qui m'habitait pouvait être l'expérience chrétienne. C'est toujours difficile de parler de soi, mais je pense qu'il y a bien des situations où on se dit, celle-là ou celui-là est chrétien, qu'il soit journaliste, magistrat, médecin. Non pas parce qu'il sent son drapeau, mais parce qu'il se comporte comme tel. Il y a le deuxième, donc il y a cette ambiance générale qui fait que très spontanément, on se sent, alors on appelle ça souvent l'obligation de réserve pour ceux qui sont dans la sphère, dans l'exercice de fonction publique. Ça, c'est une première raison qui est assez forte, vraiment forte. Et elle doit être respectée parce que l'exercice consistant à parler en chrétien sans pouvoir susciter la critique ne va pas de soi. J'ai eu l'occasion de dire qu'il m'était arrivé, non pas comme chrétien, mais simplement parce que ça me paraissait s'imposer, lorsque l'ancien premier président de la Cour des comptes a voulu supprimer dans le serment des magistrats l'expression « religieusement », qui apparaissait à certains comme le signe de l'ancien régime, j'ai mis un certain temps à le convaincre, mais il était trop tard pour qu'il renonce, qu'il s'agissait simplement d'attester ce que nous vivions ensemble, c'est-à-dire que le secret que nous devions garder, ce n'était pas simplement ce que nous avions chacun pensé, mais ce que chacun d'entre nous, dans une collégialité, avait pensé. Et il n'y avait pas d'autre adverbe pour le dire, de même que on écoute religieusement un concert ou un discours. C'est-à-dire que la résistance est forte. La deuxième raison, c'est le manque de culture de ceux qui pourraient, dans l'espace public, le manque de culture chrétienne, de ceux qui, dans l'espace public, pourraient être appelés à, par leurs paroles, à montrer qu'ils tirent profit, partie des ressources dont parlait aussi bien le pasteur Véroli que Alain Thomassé. Il y a une manière de puiser dans Lévinas, Ricoeur, ou tout simplement dans les grandes traditions qui sont les nôtres, d'Augustin à Pascal, de quoi suggérer qu'en effet, il y a là des réserves qui peuvent éclairer les autres, sans chercher à à faire preuve d'autre chose que d'appel à l'intelligence et au discernement. Et puis il y a ce que je trouve le pasteur a fort bien souligné comme un problème et un danger qui est la scène publique, qui n'est pas l'espace public. Et il est vrai que les médias sont tentés d'attirer sur la scène publique ceux qui sont connus, ceux qui sont spécialistes de religion. Vous en connaissez, vous les voyez. Bon. Et il n'est pas toujours facile. Alors, il y a les autorités religieuses. Et là, nous avons la chance, avec le pape François, d'avoir un bon communicant. Mais il ne peut pas faire tout seul. Et puis, il n'est pas souhaitable qu'il soit le seul à s'exprimer. Longtemps, Mgr Lustiger le fut. Bon. Et je trouve personnellement que Mgr 23, pour parler de la tradition qui est la nôtre, prend des positions toujours très sages et construites. Mais, encore une fois, sur la scène publique, dès lors qu'on ne veut pas toujours voir des ecclésiastiques ou des religieux, si ceux qui, n'étant pas religieux, étant laïcs, au sens propre du terme, ne s'expriment pas, il y a la difficulté que vous soulevez. C'est pourquoi je me permettais de dire, en concluant tout à l'heure, qu'il y a un enjeu politique pour chacun d'entre nous, et qui est d'avoir le courage de dire ce que l'on croit, et avec une attention de respect d'autrui.
Une parole chrétienne plus audible, hein, c'est évidemment une grande et grave question. C'est-à-dire comment avoir une parole, enfin une parole, je veux dire, sont des mots, mais c'est une présence, hein, globalement. Comment avoir une présence qui fasse signe, hein, et comment fera-t-elle signe si elle ne sort pas de ses enfermements, c'est-à-dire si elle ne travaille pas sur elle-même, si elle n'est pas une langue de bois, si elle ne rencontre pas l'autre. Pour le théologien, Alain, c'est une grande question, si une parole chrétienne qui fascine tout le travail que cela suppose.
Oui, mais je voulais revenir sur l'expression affaiblie.
Affaiblie.
La parole affaiblie. Du christianisme dans l'espace public. Parce que je me demande si on s'en aperçoit davantage aujourd'hui, mais est-ce que c'était plus fort il y a 20 ans? Je ne suis pas sûr. C'est-à-dire, c'est parce que je crois que c'est le phénomène minoritaire. Nous devenons minoritaires, du coup, on se rend compte que notre influence diminue, culturellement parlant. Alors, peut-être on s'en apercevait moins il y a 20 ou 30 ans, parce que d'une certaine façon, la culture était davantage chrétienne, mais ce n'était pas forcément une expression spécifiquement chrétienne qui se faisait entendre. Simplement, ça a influencé la culture davantage. Ça l'est moins aujourd'hui. Du coup, comme nous sommes minoritaires, évidemment, chacun a tendance à afficher davantage son drapeau, comme disait Jean-Pic. Donc, il y a peut-être un peu aussi un phénomène que la société telle qu'elle est aujourd'hui, la transformation du pluralisme dont j'ai parlé tout à l'heure, oblige d'une certaine façon davantage chacun à justifier ses prises de position, parce que les positions sont assez diverses sur les plans anthropologiques, éthiques, etc. Alors, elle est affaiblie, en fait, parce que ça correspond aussi à une réalité culturelle. Voilà. Donc, ça, c'est vrai. Alors, en même temps, j'étais sensible à la distinction entre scène publique et espace public. Ça m'a fait réfléchir. Et je me dis qu'il y a un travail de fond aussi, parce qu'il y a des choses qui ne se voient pas ou qui se voient moins. Je vous prendrai deux exemples. Parce qu'il y a un travail des chrétiens qui ne se montre pas, mais qui est très profond. Hein. Je pense, par exemple, à l'élaboration des lois, comme la loi Leonetti ou la loi, etc. Les chrétiens ont joué un grand rôle dans l'élaboration de cette loi. Ils ont même passé entre eux des contrats de droite et de gauche pour faire passer une loi pour éviter que quelque chose de pire n'arrive, hein, dans le jeu politique lui-même. Mais ça ne se voit pas, ça. Et quand vous voyez dans la loi, par exemple, tout ce qui est de l'ordre de la raison, et ça c'est vraiment de l'éthique catholique ou chrétienne en tout cas, quand vous voyez dans la loi Leonetti-Claes la question de la raison proportionnée, le fait de dire qu'il ne faut pas faire d'acharnement thérapeutique parce que c'est un soin qui est disproportionné par rapport aux attentes qu'on peut en avoir, ce type de raisonnement est typique de la tradition de l'éthique chrétienne. Quand l'Europe parle de la subsidiarité, c'est un concept qui est né de la tradition chrétienne. Vous voyez ? Alors, ça ne se voit pas, évidemment, mais c'est très important que ce type de pensée irrigue aussi de l'intérieur beaucoup de choses qui ne se voient pas forcément. Cela dit, vous avez raison, notre influence culturelle est moindre. Alors, la manière dont nous allons parler va être importante. Voilà.
sur ce point.
Oui, mais ça me permettra d'aller sur l'autre, si c'est possible, d'un coup, comme ça. Effectivement, il n'y a pas que les paroles qui disent quelque chose. Il y a aussi les actes, les gestes, la manière d'habiter le message de l'Évangile. La rédaction de la loi 1905 n'est pas le fait d'Aristide Briand. C'est un mythe. C'est des rédacteurs, une commission, et Ferdinand Buisson, président de la commission, Méjean, de Pressensé. Enfin, je veux dire, le protestantisme était à la manœuvre dans la rédaction de cette loi. Pour l'affaire de la loi Claes-Leonetti, le rapport Sicard a été aussi dans le, comment dire, dans le bouillonnement de ces rencontres, de ce Tour de France qu'il a fait aussi à la, comment dire, au travail. Et donc c'est un travail comme une germination, voilà, mais c'est une parole qui advient à un moment donné par la loi ou par les actes. Et là j'arrive au mariage. Depuis la réforme, nous sommes pour le mariage pour tous. Alors, la réforme commence par un mariage scandaleux. C'est le mariage d'un prêtre et d'une sœur. C'est Martin Luther et Katharina von Bora. Enfin, je veux dire, c'est un scandale. C'est un scandale. Le mariage comme réévaluation d'un état civil revendiquant la même sainteté que l'état de religieux. Donc le mariage pour tous, du coup, tous les réformateurs qui étaient des prêtres plus ou moins à l'aise dans leur église se marient. Et même Calvin, qui lui n'est pas un laïc, qui est très timide et qui ne sait pas très bien comment faire avec les femmes, on va lui trouver une épouse et il va l'aimer, sa petite idlette. Donc bon, ça va mal finir pour les enfants, ce sera un drame pour lui, ce serait pour elle. Mais voilà, cette idée que le mariage... Et alors du coup j'arrive à l'égalité, parce qu'il y a quand même une question. Les protestants ne sont pas meilleurs que les autres là-dessus. Ils ont eu beaucoup de mal à établir cette relation d'égalité entre l'homme et la femme par les lectures de l'apôtre Paul, qui ne les aidait pas beaucoup, il faut bien le reconnaître. Mais ils y ont insisté à tel point que la définition du ministère pastoral permet l'accès des femmes donc à cette vocation et à ce métier. Et évidemment, comme rien n'empêche théologiquement, il faudra donc que ce soit des contingences culturelles, je sais pas quoi, sociologiques, qui empêchent finalement cette accession des femmes et qu'il faille attendre le XXe siècle quasiment, encore que c'est l'armée du salut qui, la première, ouvrira la marche. Et donc, comment les protestants peuvent aider la République? Eh bien, là aussi, pas par des proclamations, pas sur la scène publique, mais par la pratique. Et vous avez peut-être entendu parler d'une décision toute récente d'une église unie dans ce pays qui, après tant d'autres, aussi par la pratique, autorise un vivre ensemble qui fait débat, qui fait dissensus, mais qui permet dans ce dissensus de libérer la parole sur un certain nombre de sujets tabous. Alors, et je termine là-dessus, le protestantisme par rapport à cette question d'égalité homme-femme fonctionne un peu comme dans les couples. Enfin, s'il y a des couples ici, on va... Le couple, c'est non pas le consensus, ça se saurait, enfin je veux dire, c'est... Mais c'est le dissensus assumé. C'est-à-dire, on est quand même très différents, on ne vient pas de la même planète, on est souvent en opposition... On n'est pas d'accord sur toute une série de choses, mais, ou bien, et pourtant, le lien qui nous unit est plus fort que ce dissensus. Et c'est un peu ce qui se passe dans le rapport entre protestantisme et république sur ces questions-là, par des gestes un peu polémiques, par des prises de position. On essaye de faire avancer les choses. Mais le catholicisme fait pareil en réalité. Je crois qu'il faut être là aussi très conscient de ce qu'on vient d'entendre à l'instant. La nourriture, la ressource vive de la République, c'est quand même, au fond, ce que Ricoeur appelle l'impensé de la République. Hein, c'est la ressource vive qui est principalement... La tradition chrétienne, la tradition judéo-chrétienne, cette impensée de la République qu'il faut de temps en temps penser à nouveau, faire advenir de la clandestinité au grand jour pour dire attendez, nous en sommes là parce que nous avons oublié ceci, ceci et cela.
Je crois que la deuxième prise de parole était plutôt un constat, une expérience. Enfin, c'est la question qui traverse notre soirée. Pourquoi la dimension spirituelle peut être si difficile à faire entendre dans bien des circonstances. Voilà, c'est une question que nous portons. Et je crois que ce que nous entendons et ce que nous disons est une manière d'éclairer ce que vous avez expérimenté. Nous avons le temps, un petit peu de temps encore, très peu, mais un petit peu, pour une ou deux questions. Voilà, deux questions sont... Oui.
Oui, par rapport à ce qui a été dit sur l'obligation de réserve d'une part et d'autre part, la pénétration en profondeur des valeurs chrétiennes, mais sans qu'elles soient spécifiquement nommées, la question que je me pose, c'est est-ce que le christianisme travaille à sa disparition ?
Bien sûr. Voilà, monsieur Fissinger.
C'est plus un commentaire qu'une question. Pour rebondir sur ce qu'a dit Alain Thomas C. et ce qui a été dit après sur la loi Clessé-Leonetti, le comité consultatif national d'éthique qui a été créé en 1985 et a été le premier en Europe, a des représentants des quatre grandes religions, la famille protestante, le judaïsme, l'islam et le catholicisme, sont représentés ex cathedra, et je peux vous assurer, pour en faire partie, qu'on les entend. Et que par conséquent, quand on arrive à la loi Clessé-Leonetti, eh bien, les religions se sont clairement exprimées dans le cadre de la République et de la laïcité.
Une troisième question au milieu. Question ou apport complémentaire.
À propos de l'apport du christianisme, le mot n'a été cité que tardivement. Il est total dans la construction européenne de recouvrer la paix. Ce sont les démocrates chrétiens, je ne voudrais pas glisser sur le plan politique. En France, Schuman, en Allemagne, Adenauer, en Italie, Gasperi, c'est la démocratie chrétienne et c'est des chrétiens convaincus qui ont fait qu'il fallait faire l'Europe pour retrouver la paix. Alors je ne vais pas parler du fonctionnement de l'Europe, mais oubliez que c'est la démocratie chrétienne et des chrétiens qui ont fait l'Europe. Alors de dire que le christianisme n'est pas visible, c'est parce qu'on ne veut pas le voir. De la même manière qu'on ne veut pas voir que dans la résistance, et on ne veut pas voir que tous les grands chefs militaires de Juin à Delattre, de Delattre à Leclerc à De Gaulle, étaient des chrétiens convaincus quand il a fallu combattre le nazisme et le mettre par terre. Par conséquent, je trouve que c'est un peu de s'auto-flageller que de dire que les chrétiens, ben vous savez, les chrétiens ont joué un rôle dans la résistance, ils ont joué un rôle dans la libération, ils ont joué un rôle pour la construction de l'Europe, et ça, alors peut-être qu'ils n'ont pas, affiché. Alors, il y a eu ce fameux débat sur savoir les racines chrétiennes de l'Europe. Ça, je vous laisse le soin de répondre à cette question qui est difficile, mais moi, il me semble
entendu.
Que nous n'avons pas, sur ce point, mettre notre drapeau dans notre poche et à défendre l'Europe. Alors, elle fonctionne peut-être mal, mais il faut défendre l'Europe.
Voilà, merci. Des applaudissements pro-européens. Une dernière question. Je vois 3-4 mains qui se lèvent. Oui, oui, le micro. Brigitte, au milieu.
Oui, c'est dans le prolongement de ce qui vient d'être dit, mais plus, de façon plus actuelle, le pape récemment, à profond, nous a rappelé qu'on avait une place sur le plan politique aussi à jouer. Et samedi, j'étais sur la vie dans les banlieues et j'ai été un peu surpris de l'intervention du Monseigneur Dubos qui rappelait, bon, puisque là, ça concernait la région Île-de-France, en disant, attention, on a une responsabilité, on a des gros enjeux qui vont pour l'Île-de-France au niveau politique. C'est vrai qu'avec le Grand Paris et puis aussi tous nos problèmes de banlieue. Alors, que faisons-nous, chrétiens ?
Bon, entendu.
Ça amène à quelque chose de très, voilà. De très immédiat, mais qui est dans le prolongement de ce qui est là.
Monsieur qui est à côté aura droit au micro. Vous serez le dernier intervenant.
Étant le dernier intervenant, j'espère que ce ne sera pas trop catastrophique.
Sinon, on donnera la parole à quelqu'un d'autre.
Bon, d'accord. Alors, si vous voulez, je suis assez âgé et je trouve que le christianisme a bénéficié d'une part de la chute de l'athéisme d'État, c'est important, et d'autre part de l'agitation créée par les convulsions de l'islam. Et beaucoup de gens se barricadent dans le christianisme parce qu'ils peuvent, si vous voulez, le faire. Mais en revanche, il y a une opposition au christianisme en France en particulier. C'est que les désordres moraux dans la conjugalité, les divorces, la multiplication et tout un tas de catastrophes morales fait que beaucoup de gens se sentent dans leur tort. Et à ce moment-là, ils ne veulent pas se l'avouer. Et ça crée plutôt le contraire d'une référence au christianisme.
Voilà, merci monsieur. Ça fait beaucoup. Écoutez, on ne peut pas répondre, je crois, à chacune des questions séparément. Peut-être une réaction ou qui serait un petit peu un mot de conclusion aussi, peut-être, de chacun et transversal, certainement, oui.
Oui, de façon. J'aimerais reprendre la première question sur la situation de la France et cette laïcité de séparation qui serait tellement incompréhensible ailleurs. Pas du tout. C'est ce que vous disent les Anglais ou les Allemands parce qu'ils sont un petit peu taquins avec nous. Mais la plupart des pays d'Europe sont des pays laïcs. Et en Allemagne, la loi fondamentale explique bien la séparation. Il y a une mise à disposition des services fiscaux pour payer les chrétiens qui veulent bien que leur église fonctionne, mais c'est un système de séparation. Les États-Unis d'eux-mêmes. Et ce que je veux dire par là, c'est que les démocraties ont toutes plus ou moins trouvé un système de séparation qui permet l'autonomie des sphères religieuses et politiques. Et ça, c'est heureux, parce que ça permet précisément, comme je l'ai dit tout à l'heure, la création d'un espace public, une agora organisée. Pour ce qui concerne l'Europe, vous avez raison, les chrétiens ont joué un rôle, mais c'est précisément parce que leurs anciens avaient quand même causé trois guerres et un génocide qu'ils ont été entièrement décrédibilisés. Et le drame de la Première Guerre mondiale a fait que les églises n'avaient plus aucune légitimité dans le monde. Dans le monde. Et voilà, on revient de tellement loin après la Première Guerre mondiale, et puis la Shoah, évidemment, qui a détruit l'espérance de ceux qui encore espéraient un tout petit peu. Comment expliquer à des Burundais ou à des Indiens d'Amérique que les Européens sont des démocrates? Alors, et puis, enfin, sur la question du Comité national consultatif d'éthique, moi je partage. J'ai eu des échos de ce travail remarquable, et c'est vrai que nous avons là un exemple type de ce que la France fait de bien, enfin, dans l'élaboration de la loi, c'est-à-dire une vraie éthique du dialogue démocratique qui aboutit à la transcription avec une loi Claeys-Leonetti qui est remarquable. Donc voilà, moi je suis un peu rapide dans mes réponses, mais je suis positive, si vous voulez, pour dire que, pour répondre à la question de madame, la première, oui, effectivement, le christianisme, d'une certaine manière, travaille à son auto-effacement. Oui, bien sûr, le christianisme ne travaille pas pour lui, c'est pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu, alors c'est pas ici que je vais le rappeler la devise, mais pour la plus grande gloire de Dieu. Nous, c'est la gloire, c'est tout. Mais, c'est de dire que, vraiment, le message est pour l'humanisation de l'humain, pour être mieux homme encore et femme, devant Dieu, et non pas pour, j'allais dire, bâtir une société, une societas christiana. Enfin, ce serait l'horreur totale, on a déjà essayé.
Alain ?
Oui, je voudrais revenir sur la question de la laïcité. On l'a déjà évoqué, mais je crois qu'il est bon de souhaiter, à défaut de l'avoir déjà constituée, une laïcité de dialogue, de confrontation. J'ai parlé de... Ça suppose évidemment qu'on puisse discuter entre nous et afficher aussi nos convictions, bien sûr, sans crainte. Mais il faut pouvoir aussi, dans l'espace public, argumenter. Et c'est ça, d'une certaine façon, souvent notre difficulté, à nous, catholiques en tout cas, c'est que comment peut-on transformer, traduire nos convictions intimes, nos convictions anthropologiques, nos convictions éthiques, en arguments qui soient audibles par la société. Ça, c'est notre grand travail que nous avons à faire. Pas seulement brandir la Bible pour dire « la Bible dit cela », mais dire « voilà, ce sont des sujets importants pour la société, voilà quelles sont les raisons qu'on peut en donner. » Bien sûr, elles sont enracinées dans nos convictions religieuses, Mais il y a un endroit pour témoigner de ses convictions et il y a un endroit pour argumenter, ce n'est pas les mêmes. Voilà. Alors, on pourrait dire, j'aimerais, moi, que l'exemple du Comité national d'éthique puisse avoir lieu dans d'autres lieux. Par exemple, comment on constitue les programmes scolaires. Ce serait bien qu'il y ait un débat, un comité national des programmes scolaires où on puisse mettre à jour comment on parle des religions, par exemple. Voilà un autre exemple possible. Ce serait bien, la laïcité s'honorerait à le faire.
Nous ne voyons pas de quoi il parle. Mais c'est la nature de la démocratie, de la citoyenneté précisément, que d'argumenter et que de procéder de cette manière. Jean, le mot de la fin, presque.
C'est pas. Si j'étais malicieux, je dirais que dans les 6 derniers mois, entre le démontage de la crèche de Noël en Vendée et l'affaire de l'affiche des prêtres, les chrétiens d'Orient, le christianisme a bien involontairement apporté la preuve que l'intolérance et la bêtise avaient encore de beaux jours devant elles. Si vous allez plus loin, d'abord je dirais que, pour faire écho à la remarque tout à fait juste sur l'Europe, que ce qui nous unit Européens, tous confondus, quels que soient les régimes propres aux relations entre État et religion, c'est un principe de séparation qui est un enfant du christianisme. Donc je pense que nous devons, par rapport aux autres régions du monde, considérer que là nous avons un trésor qui permet cette confrontation dont nous avons parlé ce soir. On a parlé d'éducation. Et nous savons bien que dans la guerre des deux France, cet aspect a joué un rôle considérable, puisqu'il s'agissait d'arracher les enfants à leur environnement. Il y a des phrases magnifiques, en tout cas inquiétantes, à l'époque, sur ce qu'était l'enseignement catholique. Il y a eu un rapport de force qui a conduit aux événements que vous savez. Il reste tendu. Mais aujourd'hui, 40% des élèves passent au cours de leur scolarité d'un enseignement à l'autre. Et le principe de la coexistence des deux enseignements dans l'enseignement public général, dans l'éducation nationale, n'est plus contesté. Et les écoles de l'enseignement privé sous contrat, certes majoritairement catholiques, mais il y a également des écoles protestantes et juives, peuvent jouer un rôle important dans la formation des élèves et donc aider à ce que les citoyens croyants aient des ressources pour affronter l'espace public dont nous parlions. Et c'est là-dessus que, alors, je voudrais aussi souligner le travail immense et discret des grandes associations comme ATD Quart-Monde, qui, dans beaucoup d'endroits, pensent les blessures du corps social que l'État ne pense plus. Et dans ces associations, l'engagement des militants chrétiens est considérable. Et c'est évidemment un travail dont on parle peu. Mais c'est un travail de couture sans lequel peut-être notre société exploserait. Il faut le rappeler. Et puis enfin, vous avez posé, madame, tout à l'heure, la question la plus décisive. Que faisons-nous chacun, là où nous sommes, pour contribuer par un engagement au service des autres, à ce que, à la fois dans le respect d'autrui, mais la force de nos convictions, nous édifions un monde meilleur autour des thèmes de la justice, de la solidarité et de la dignité de l'homme. Il ne vous a pas échappé qu'en plusieurs circonstances, les autorités religieuses ont su, avec beaucoup de force, parce qu'elles se sont maintenant réunies. Ce fut le cas, par exemple, lors d'une initiative qui avait été jugée intempestive sur une convention sur l'islam et où l'ensemble des confessions ont pour la première fois pris position ensemble pour rappeler leur attachement à la laïcité. Donc les choses progressent, au point même qu'un spécialiste de la laïcité va reprocher au Premier ministre d'avoir évoqué l'idée que le fait qu'une église soit dans chaque village était la preuve qu'il y avait quand même dans notre pays une essence chrétienne. Et ce terme, vous savez, lui a été reproché alors que c'est un constat tout simple.
Voilà, il me reste à remercier beaucoup nos trois intervenants, M. Claveroli, M. Jean-Pic, Alain Thomassé, pour la qualité, je crois, de leur parole ce soir, qui nous met devant nos propres tâches. Voilà, des paroles exigeantes. Un très grand merci à vous, Un très grand merci aux Semaines Sociales qui sont notre partenaire ce soir. Merci à vous tous en direct à Paris, si j'ose dire. Vous êtes très nombreux. Et puis à vous qui êtes un petit peu plus loin, dans une bonne quinzaine de villes de France et jusqu'à Athènes. Merci à vous. Vous savez que la conférence sera mise en ligne dès demain, certainement. Donc vous pouvez la réécouter. Enfin, vous pouvez réécouter cette soirée. Ce n'est pas une conférence. Vous pouvez réécouter cette soirée sur le site du Centre Sèvres. www.centresèvres.com. N'hésitez pas à cette occasion à visiter notre site, une page de publicité. Je vous donne rendez-vous, si vous le souhaitez, le 6 octobre prochain pour le mardi d'éthique publique de notre prochaine académique, puisque nous faisons relâche en juillet, août et septembre. Merci de votre fidélité. Applaudissements.